Ça y est, c'est parti. Alors donc, j'ai navigué pendant 30 ans dans cette compagnie, Louis Dreyfus. J'ai pris le premier bateau, le Carole Ier, qui a été construit en 1903 en Angleterre, et le dernier, qui parle d'une série de trois bateaux, le Jean LD. Alors le premier avait 112 mètres de long et 5 350 tonnes de chargement, et le dernier, 292 mètres et 180 000 tonnes de charge. Alors le premier prenait, avec sa machine à vapeur, 1 850 chevaux pour 11 nœuds. Il lui fallait 24 tonnes de charbon par jour, alors que l'autre a 25 000 chevaux comme moteur diesel et qui fait pas 30 tonnes par jour non plus. Donc on a comment, une évolution des consommations de combustible qui a atteint son point le plus haut dans les dernières années. Quand je suis embarqué donc en 57 à Anvers, et pour moi la découverte venant de ma Sarthe natale, la découverte du port et des nombreux bateaux qui naviguaient dans la mer du Nord et ensuite allaient dans les ports du Nord, Anvers, Rotterdam, Hambourg, Dunkerque, il y avait énormément de circulation. Et je garde ces images-là en mémoire parce que maintenant, c'est fini, le conteneur a changé tout l'aspect de ces ports. Le port de Hambourg, le deuxième port où j'ai accosté, c'était vraiment un port très très vivant. Alors j'ai osé ajouter une petite carte pour me rappeler de Sampaoli, le quartier superbe des marins. Alors voilà le bateau où j'étais embarqué, le Robert LD, qui était en train de décharger du grain là, et on était en train de faire le mazout. Ce jour-là, on a chargé 700 tonnes de fioul pour continuer la tournée du Nord et repartir en Amérique du Sud. On a chargé à Anvers de la ferraille, 4 500 tonnes de ferraille. Oui, je disais, Hambourg, il y a des bateaux de tous les pays, russes, japonais, anglais, et même de beaux cargos suisses immatriculés à Bâle. Et ça m'avait fasciné. Alors, on est reparti de Hambourg avec des machines agricoles qui venaient de Hongrie, des moissonneuses-batteuses, des camions, des lingots de plomb, 7 tonnes de machines à écrire, 5 tonnes de montres et de l'engrais. Je disais dans une lettre à mes parents, c'est un vrai bric-à-brac. Donc tout ça s'en va sur l'Amérique du Sud. Donc la ferraille, on l'a déchargée sur le Rio Paraná, dans la Pampa. Il n'y avait pas de ville, il n'y avait rien, une espèce d'usine. Et pendant 2 jours, on a déchargé. Le bateau a été déchargé de ces fils de fer barbelés et surtout les profils métalliques. Je sais pas ce qu'ils en faisaient, mais alors on était amarrés dans les joncs. Et j'avais trouvé ça aussi assez exotique. Une fois le bateau déchargé sur le Paraná, on remontait à Rosario prendre du grain, mais pas complètement, parce que le tirant d'eau n'aurait pas permis de charger le bateau complètement. Alors on finissait à Buenos Aires le chargement de grain pour arriver à peu près à 9 000 tonnes de blé. Les grains étaient déchargés dans les ports du Nord avec des grands aspirateurs, on appelait ça des suceuses. C'est des machines à vapeur qui entraînaient des gros compresseurs et qui aspiraient le grain. Donc ça allait relativement vite et ça déchargeait directement dans les péniches qui remontaient le Rhin. Alors l'Alain LD, qui était un bateau frigorifique, avait été un cargo allemand qui a été sabordé pendant 4 ans dans le port de Brest. Louis Dreyfus l'a racheté. Le bateau, le moteur a été changé, il a été remis à neuf et il était spécialisé dans les viandes d'Argentine. Alors il emmenait à peu près 7 000 tonnes de viande à chaque fois. Après cet embarquement-là, du Robert, où on chargeait donc des choses, par exemple, on avait pris du miel et du tabac au Brésil, et dans un coup de temps assez violent qu'on a eu du côté de Casablanca, les tonneaux de miel se sont crevés et les matelots ont travaillé à nettoyer le bateau, à nettoyer. Il y avait du miel partout, même dans les clés à la machine, c'était effrayant. Et le tabac était envahi de miel. Alors on posait des questions si c'était pour faire le tabac blond qui sent si bon. Mais enfin bon. Alors là, ce bateau-là, c'est le deuxième embarquement. C'est un Liberty Ship de la dernière guerre. Il était à bout de force, là, il avait 15 ans. Et il appartenait à l'État français, mais loué par la compagnie Dreyfus, qui le sous-louait à Renault, la compagnie Renault, et la Transat. Alors, si bien qu'on avait sur la cheminée, non pas l'épi de maïs qu'il y avait sur la compagnie Dreyfus, il y avait le losange Renault et le noir et rouge de la Transat. Alors, on emmenait là-dessus 1200 dauphines et 4 chevaux. Alors, elles étaient dans les cales, sauf l'été où ils emmenaient, moi ça m'est pas, je ne l'ai pas vu, mais enfin, ils emmenaient les voitures en pontée dans des caisses. Alors là, on remonte le Mississippi pour aller finir de décharger toutes ces bagnoles, et on remontait à vide, si bien qu'il fallait 500 tonnes de cailloux dans la cale 5, enfin la dernière cale, il y avait 500 tonnes pour que l'hélice trempe dans l'eau et qu'on avance un peu. Alors c'était un bateau qui marchait, il lui fallait aussi 25 tonnes de fioul par jour pour une machine de 1500 chevaux, 2000, et avec du mauvais temps, on reculait à peu près, quoi. Ça n'avançait pas beaucoup. Par mauvais temps, c'est tout juste si je ne voyais pas les poissons passer. J'exagère. Mais l'eau montait sur le pont, le bateau roulait énormément. Après cet embarquement-là, j'ai été nommé sur le Léopold, le frère de Robert, que j'avais tout à l'heure. On est embarqué à Venise. Il arrivait avec un chargement de blé du Mississippi. Et donc, on a embarqué à Venise. Il a déchargé son blé. Nous, on est arrivés après à Torreviera sur la côte méditerranée pour charger du sel. 9500 tonnes de sel pour le Japon. Alors le sel, on a été 11 jours parce que les gens venaient avec des petites barcasses à l'aviron. Le sel était chargé à la pelle dans des godets qui étaient hissés à bord, chavirés à bord et rangés dans les cales, les 9000 tonnes de sel en 11 jours, quoi. Alors, comme c'était un petit pays, ce gros bateau mouillé au large, là, ça intéressait tout le monde. Alors, on a eu la police venir visiter le bateau, le curé de la paroisse, et puis aussi des jeunes filles qui arrivaient gentiment pour voir le bateau. Et alors, donc, on est parti pour le Japon. Dans l'océan Indien, on a eu un coup de mauvais temps, et il y a une tôle qui a fendu dans le fond. Et donc, on a étanché ça, c'était un vrai problème. Enfin bon, on est arrivé au Japon et le blé a été déchargé. Alors, après le déchargement du blé, on a pris 200 tonnes de porcelaine et un chargement de contreplaqué. Alors, c'est assez curieux parce que le bois venant de la British Columbia et du Canada, l'Oregon et tout ça, ce bois-là était emporté au Japon, il faisait le contreplaqué et il le ramenait ici, là, en Amérique et au Canada. Et le bateau, on a chargé pour emmener du bois en Afrique du Sud, à Cape Town, Durban et Lourenço Marques en Mozambique portugaise. Alors on avait du bois à gogo, il y en avait 3 mètres sur le pont, vous voyez, ficelé avec des chaînes. Arrivé en Afrique du Sud, tout ça a été déchargé. On a eu l'ordre de monter à Calcutta chercher du minerai pour le Japon. On a été 23 jours, parce que là aussi, charger le minerai qui descendait de wagons, fourgons, c'était même pas des tombereaux. Et dans une chaleur qui, il y avait quand même bien 40-45 par après-midi. Et dans la machine, je ne vous dis pas ce qu'il faisait. On dormait sur le pont. Et comme il chargeait la nuit aussi à la pelle, il y avait une poussière d'enfer. Et le matin, on se réveillait tout rouge, quoi. Alors donc, c'était intéressant. On a pu sortir quand même, voir le pays. On avait les charmeurs de serpents à bord, là, qui amusaient la galerie. Et c'était pas désagréable. Mais alors, la chaleur était vraiment terrible. Comme on a chargé que 7000 tonnes, et il en manquait 3000 qu'on a pris dans le sud, du côté de Madras, à Coquenada. On était mouillé à 20 km de la côte et le minerai arrivait par voilier à 70 tonnes de minerai de fer. Mais il n'y avait pas du vent tous les jours. Alors on a été 15 jours aussi au mouillage. Et heureusement, on avait un bateau mouillé pas loin de nous, un Suisse, qui avait le même moteur que nous, un moteur suisse, Winterthur, Sulzer. Et on avait le prétexte, on avait mis notre baleinière à l'eau, on avait mis le prétexte d'aller voir comment ça marchait bien, leur machine. Mais en fait, ils avaient de la Tuborg en pagaille qu'on n'avait pas, nous. Alors, donc, c'était très intéressant comme échange culturel. Donc, après cet embarquement-là, qui a duré 11 mois, je suis reparti 2 mois sur le Pont-Aven de l'UIM, une autre compagnie, qui faisait uniquement Rouen, Lisbonne, Setúbal, Porto, Les Choès, Casablanca. Et on descendait avec des camions, des voitures, et on remontait avec du Liège, avec du Porto, évidemment. Il y avait une cale de Porto, alors en barrique, ou aussi en caisse, avec du bon Porto raffiné, mais on n'avait pas le droit d'ouvrir les caisses, évidemment. Par contre, le Porto en barrique était soigneusement déchargé par les douaniers à Rouen. C'est-à-dire que le grutier avait un coup, les pattes d'oie prenaient il l'amenait à toute vitesse au ras du sol, et il y avait un bac prévu. Le choc disloquait les douvelles du tonneau, ils sortaient dedans peut-être 20-30 litres de Porto, et en vitesse, ils avaient un coup de maillet très bien fait pour reformer les douvelles et repartir à terre avec un tonneau qui fuyait plus. Oui, on avait donc du phosphate qu'on allait chercher à Casablanca. On remontait avec du kaolin pour la vaisselle, je pense que c'est ça, quoi. Alors après, j'ai fait mon service militaire, c'était pas la même navigation, mais j'ai été nommé sur un bateau tout neuf en sortant du service, sur le François LD, qui était un bateau conçu spécialement pour monter jusqu'au fond du lac supérieur, en passant par les écluses. Le Seaway était un canal fraîchement fait. Donc ce bateau tout neuf, les formes ont changé, la machine et les habitations tout à l'arrière, les cales sont très vastes et il n'y a pas de mât de charge pour gêner les transports. Donc c'est un bateau que j'aimais beaucoup, que j'ai fait souvent, j'en avais fait la maquette. Et j'ai passé des moments merveilleux. Il marchait très très bien. Et la navigation dans les champs jusqu'au fond du lac supérieur était souvent intéressante, du moins à l'automne, avec les arbres, avec leurs feuilles d'érable et les sapins, tout ça. L'hiver, on ne pouvait plus parce que la glace prenait. Et l'été était très chaud. Alors, il y a 3800 km de route sur la Terre. Des tas d'écluses, on remonte les chutes du Niagara, qui font... c'est en miles. Donc on remontait juste au fond du lac supérieur. Tout ça, c'était pour prendre du blé qui repartait en Europe. Et petit à petit, les gens du Mississippi qui avaient des chalands se sont mis en tête de redescendre plutôt les blés du Minnesota par chaland sur le Mississippi, plutôt que d'amener des bateaux de mer qui polluaient les eaux douces. Et donc le trafic, après, s'est un peu éteint. Mais je ne sais pas où c'en est maintenant. Alors, quand on partait d'Anvers, surtout d'Anvers pour les Grands Lacs, on chargeait surtout des bobines de tôle pour l'industrie automobile. Chaque rouleau faisait 40 tonnes, vous voyez. Alors, on déchargeait ça à Montréal. Alors, sauf, on aimait bien quand il pleuvait, parce qu'il ne fallait pas une seule goutte d'eau sur les tôles. Le receveur ne les reprenait pas, parce que ça risquait d'amener la rouille. Donc, ça nous a permis un jour de voir l'exposition universelle à Montréal. Il pleuvait à seaux, et on n'a pas déchargé Alors, au fond du lac supérieur, les silos à grains, c'est monumental, hein. À Duluth et Supérieur, les silos, ils sont vidés directo dans les cales. Et les trains, il y a 4 rangées de trains et des camions qui amènent en permanence tous les grains des grandes plaines du nord des États-Unis. Comme on ne pouvait pas charger à 22 000 tonnes aux marques, on finissait le chargement à l'automne à Trois-Rivières. Après, on ne pouvait plus à l'hiver. Et l'été, à Port-Cartier. Donc, avec le Philippe, qui était un peu le même bateau, on allait chercher de l'engrais aussi au fond du lac supérieur pour la Norvège, à Porsgrunn. C'était un beau voyage aussi, parce qu'on avait la campagne au départ et la remontée des fjords à l'arrivée. Alors après, j'ai été pendant quelques années sur une ligne de tramway affreuse, le minerai de Mauritanie pour Dunkerque, usine or Dunkerque. Alors ce minerai a été pris à Noidibou, dans la baie des Anges. Là, il y a eu trois minéraliers qui ont été construits pour ce travail-là. 33 000 tonnes, ils ont été les plus gros du monde pendant 4 mois. Mais enfin, c'était déjà des très gros bateaux. Et alors, ces bateaux-là, quand le matériel était neuf, étaient chargés en quelques heures à Noidibou et déchargés très rapidement aussi à Dunkerque. Je me rappelle même d'un commandant qui, pour gagner une marée, pour gagner du temps, tout ça pour le minerai, il allait pas pourrir, hein. Il passait dans le chenal qu'il y a entre la Ouessant et la terre. Et après, ça a été interdit, évidemment, parce qu'en cas de panne de gouvernail par manque d'électricité ou tout ça, on s'est foutu. C'était un pimpolet qui voulait faire plus fort que son frère, qui commandait un autre bateau. La course au minerai, vous voyez. Alors donc, par gros temps, comme le minerai était chargé que dans les fonds, hein, 33 000 tonnes, ça n'allait pas jusqu'à dans le haut des cales, on avait vraiment du souci au point de vue roulis, quoi. Et il y a eu une chose affreuse un jour, des gens qui voulaient émigrer discrètement ont pris le tapis roulant pour rentrer à bord, pour arriver à bord, mais ils ne savaient pas que le minerai était concassé à un endroit. Ils ont été broyés avec le minerai. Alors, à la longue, on se faisait des amis avec les Mauritaniens, c'était très intéressant. Ça me remontait le moral que de faire toujours ce tramway. J'arrivais à avoir des amis très sympathiques et des échanges culturels et de tabac aussi, hein, pour. Et j'aimais beaucoup ce coin-là. C'était assez monotone comme navigation. C'était pas. Mais enfin, bon, Dunkerque étant un pays qui nous plaisait beaucoup finalement. C'était pas mal. Puis les bateaux étaient intéressants. Après, je suis retourné sur le François et le premier voyage a été les Grands Lacs, retour sur Rotterdam. Et j'avais dit à ma femme, si tu veux venir, ça va être bien. Manque de peau, on arrive à Rotterdam. Vous repartez chercher du blé à Baltimore pour le Pakistan. Alors bon, nous voilà repartis à prendre du blé. Les cales, évidemment, bien balayées, bien propres. Et on est parti à Karachi. On est resté 3 semaines sur Rab, parce qu'il y a énormément de bateaux dans le port. Et quand ça a été à notre tour, ça a été aussi un bon moment, parce que j'ai découvert une culture différente. Là, on voit, il y avait encore pas mal de voiliers. Les transports étaient intéressants. Et alors, par contre, le déchargement se faisait... chaque tuyau avait un aspirateur à moteur. C'était un bruit monumental. Et alors ça déchargeait directo sur le quai. Les gens cousaient les sacs sur le quai et les chargeaient et les mettaient sur des voitures avec des ânes, des chariots, quelquefois des camions, dans une poussière phénoménale. Et alors, pendant qu'il y avait des fuites partout, et les femmes étaient chargées de balayer les quais et de refaire des sacs pour éviter. Par contre, les pauvres gens avaient du mal avec les rats qui se servaient abondamment. Alors, plus tard, j'étais embarqué dans une des... On appelle ça des méthaniers, des butaniers plutôt. C'était une compagnie qui avait affrété ses bateaux à Dreyfus et les équipages étaient aussi Dreyfus. Alors là, on voit ce petit bateau, 70 mètres de long, qui était spécialement chargé à faire le butane et le propane pour la Corse, Bastia et Ajaccio. Et on faisait la Grèce, on faisait la Turquie, le Casablanca, Tanger, le Portugal en face Lisbonne. Donc c'était un voyage de cabotage en permanence. Alors on prenait 1200 tonnes de butane ou de propane et qui étaient pompées. C'était presque un tourisme éhonté, quoi, parce qu'on était souvent dans les mêmes ports. Et on a été à les îles de la Méditerranée. C'était vraiment étonnant, quoi. Mais par contre, le bateau était un peu... Il avait été français au début, il y a 25 ans. Après, il a été anglais, il a été espagnol, il a été chinois, il est redevenu français après les Chinois. Alors, il y avait beaucoup de travail à faire dans le sens où, par exemple, le moteur avait plus de joints aux échappements. Et quand on est arrivé, la machine échappait presque directement dans le compartiment. Alors autrement, on a vu du pays. Alors ça, c'était vraiment chouette, hein. Et puis on allait en carénage à Athènes. Et un travail qui aurait été fait en 2 jours en France était fait en 11, 12 jours là-bas. Alors ça nous permettait de faire un peu le touriste. Et là aussi, avec les Grecs, ça a été des trucs superbes. Alors un jour, avec le maître Multina, le frère du Ferrat, on est arrivé sur l'étang de Bére où on devait charger. Et puis, soudain, on avait une baleinière arrivée avec des hommes en noir et des serviettes en noir et des flics. On dit, alors le commandant qu'on voit là, lui, la planche, il dit, qu'est-ce qui se passe? On était saisis par les huissiers parce que la compagnie avait fait faillite à Londres. Et donc, on est resté 5 mois sur le bateau. En garde. Et presque tout le monde est parti. On m'a dit, non, non, tu restes. T'es le second, tu restes. Alors, tu passes chef. Alors, bon, je suis passé chef. Et puis, j'ai eu la chance de voir ma femme et mes filles pour les vacances de Noël. Le problème, c'est qu'on a foutu le feu au bateau. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais il n'y avait plus de gaz. Hein. Alors, après les butanes et propane, il y a eu un bateau, un méthanier. Alors là, c'est différent. On voit une des cuves à méthane, en métal invar, qui fait 5 dixièmes d'épaisseur seulement, et qui est renfermée dans des blocs de contreplaqué de plusieurs mètres. Vous voyez un homme, la profondeur de la citerne, et ce bateau-là emmenait 125 000 tonnes de méthane. Le déchargement, je ne l'ai jamais vu, le chargement non plus, vu que l'usine de Skikda en Algérie n'était pas terminée. Le bateau est resté 4 ans sur l'étang devant hier. Alors, on était par équipage, 5 mois à faire pas grand-chose. Enfin, j'étais mis pour charger il était tout neuf, pour en faire l'inventaire des pièces de rechange. Alors j'avais classé 18 000 pièces de rechange. Ça m'avait occupé un moment. Et bon, voilà. Alors donc c'est un bateau qui, après, a navigué 22 ans à faire le méthane sur la France à Montoire et après sur les États-Unis. Maintenant, il est en Chine, je crois. Alors, à cette époque-là, dans les années 70, les bateaux ont changé. Les cargos habituels ou à 5 cales, tout ça avec des mâts de charge, des grues et tout le bazar. Ça s'est arrêté et c'était des bateaux qui avaient tout à l'arrière, des grandes cales, et on pouvait faire du chargement en vrac. Alors là, on voit des camions de ciment qui amènent le ciment en Espagne dans la cale, qui est pompé avec de l'air comprimé dans les cales. Là, c'est avec des silos à ciment. Et on faisait le ciment sur Djeddah, en mer Rouge, entre autres. Et le ciment était aspiré par des gros aspirateurs aussi. Bon, c'était pas un transport bien intéressant. À Djeddah, c'était bien compliqué d'aller à terre. Ces bateaux-là étaient spécialement aussi étudiés pour les transports de pâte à papier, alors de grains aussi, du marbre de Chine, vous voyez, ça c'est du papier pour le Japon. Des bateaux, alors, les bateaux n'étaient pas conditionnés pour mettre les conteneurs. Alors ça venait comme ça, c'était chargé sur le pont, mais pas comme on les voit maintenant. Sur un autre bateau, on a pris du charbon du côté de Vancouver pour l'amener à Auckland dans la baie de San Francisco. Alors bon, j'ai quand même pu réussir à faire une petite sortie à San Francisco. Et alors, avec le même bateau, partant de là-bas à vide, on est parti au Chili. Chercher du bois. Alors, le nom du pays, je ne me rappelle plus, c'est. Bon. Enfin, on a chargé à Lirken et chargé par palanquet, il y en avait sur le pont, je crois, on avait 45 000 tonnes de bois. On rentre en France à La Palisse, décharger notre bois. Et on le finit à Anvers, et là on apprend que le bateau était vendu. Alors on nous a demandé de débarquer le temps que les papiers soient faits. Il n'y avait plus de nom, plus de pavillon français, et ça nous a fait drôle, on a été obligé de quitter le bateau, et que quand les papiers d'achat ont été faits, et le nom mis au tableau, on est remonté à bord, faire nos valises, parce que c'était pas le tout, et passer les consignes de machine aux Anglais. Ça nous a fait un peu de peine, mais c'était comme ça. La compagnie commençait à décliner, maintenant c'est le contraire. Et alors donc, là, Anvers, vous voyez, c'est un immense port maintenant qui n'a plus rien de poétique. Là, il y avait une église, alors ils ont gardé le clocher dans les hangars, quoi. Alors après, sur le même bateau que celui-là, le Jean LD, je suis embarqué à Vancouver et on est parti sur le sud-est asiatique. Alors bon, la mer n'était pas vraiment très calme. On a eu quelques problèmes mécaniques et tout ça, bon. Et on a fait l'Indonésie, les Philippines, et on a été à Surabaya, Makassar. Makassar, on a livré du soufre pour une usine de nickel qu'on n'a jamais vue, elle était dans la forêt. Puis nous, on a profité pour faire un peu de tourisme, vous voyez. Le soufre partait dans des petites barges dans la jungle et on n'a pas vu du tout à quoi ça servait. Une usine de nickel, bon. Après, alors là, c'est un gros transport qui a duré pas mal d'années, la pâte à papier. Alors, il se faisait de la pâte à papier partout. On en emmenait aussi partout. C'était pas loin de Victoria, au Brésil. Il y a des chalands qui amenaient la pâte à papier, qui étaient chargés après dans le bateau. Alors, il y a eu, à un moment, les bateaux remontaient l'Amazone, assez loin, parce qu'ils avaient fait une usine importante en faisant l'usine au Japon. Faite, construite sur des pontons, un énorme ponton, et ramenée du Japon par le Cap Horn et remontée dans l'Amazone, où, au préalable, ils avaient creusé comme un lac immense, après avoir abattu la forêt, bien sûr, un grand lac, et ils ont inondé le lac, ils ont rentré le chaland et l'usine dessus, et ils ont retassé la terre autour. Maintenant, l'usine est dans l'Amazone, dans la terre. Après, on a emmené de l'engrais en Nouvelle-Zélande. Parce qu'ils se sont aperçus que les tas de moutons qu'ils avaient bouffaient tout ce qu'il y avait comme herbe. Et ils se sont aperçus qu'il fallait qu'ils commencent à mettre de l'engrais. Et ça a été, on nous a expliqué ils étaient forcés, mais ça les tracassait. Alors, la Nouvelle-Zélande, on a fait plusieurs ports, dont Auckland, Tauranga dans le nord. Enfin, il y a eu quatre ports où on faisait des voyages assez de Panama à Nouvelle-Zélande, je ne me rappelle plus le temps, mais c'était assez long. Non, ce n'est pas le dernier embarquement, c'est l'avant-dernier. Je suis embarqué encore à Vancouver et on a chargé du charbon pour Marseille. 180 000 tonnes de charbon. Et on est reparti, comme il ne pouvait pas passer Panama, on a passé par le Cap Horn. Grand bateau, petit vélo, parce que pour aller à l'avant, l'électricien, il lui fallait un vélo, il avait du travail là-bas. Et quelques jours avant le Cap Horn, là, on peut dire qu'on a eu vraiment, pendant 4 jours, du très très gros temps. Vous voyez, l'eau monte sur le pont, alors qu'il y a 16 mètres de tirant d'eau pour la coque, plus 6 mètres de la flottaison au pont. Vous voyez, ça faisait des creux assez importants. Alors, le charbon déchargé à Marseille, et puis pour balayer les cales, il y a des pelles mécaniques. On m'a dit, bon, tu débarques à Singapour. Ah bon, ben, on prend du fioul à Singapour, puis on t'appelle à Paris, tu débarques. Bon, ben, je pars. Et puis, après les congés, je suis rembarqué à Vigo. Le bateau arrivait des États-Unis avec du charbon en Espagne, mais avec du charbon pour la France, parce que l'équipage était changé. C'était des Turcs et il n'y avait pas le droit de les embarquer en France. Alors, les Turcs ont été embarqués à Vigo, puis nous aussi. On était 6 Français et 18 Turcs. Et on est remonté, déchargé le charbon au Havre et à Rouen. Et à Rouen, il y a eu grève, il y a eu un bazar, puisqu'il y avait débarquement d'équipage. L'atmosphère était assez glauque. Et on a été mis à un quai en punition, paraît-il. Ça me fait rigoler. Mais. Un quai où on ne pouvait pas mettre la coupée. Alors, pour monter à l'échelle, fallait mettre l'échelle de pilote. Et ça faisait 12 mètres. La femme du radiologue avait 21 ans, elle, ça a été très bien. La mienne est repartie dans la voiture, elle est rentrée à Courseul. Quoi. Et puis on est reparti à Newport News prendre du charbon, il a enfoncé. Mais comme il avait trop de tirant d'eau à pleine charge, on est reparti par le Bonne Espérance prendre du charbon dans un patelin en Afrique du Sud, sur la côte, l'océan Indien, pour le Japon. Vous voyez, on est passé auprès de Sainte-Hélène. Un truc affreux, c'est une île horrible. On l'a vu que toute noire. Au large de la Réunion, ça allait un peu mieux. On avait un pigeon qui était embarqué à Rouen, qui a fait les États-Unis, et qui était encore là en arrivant au Japon. Et le pigeon, tous les jours à 5 heures, le chef mécanicien le nourrissait. Et dès que le pigeon il a vu une île, ben, il s'est sauvé, quoi. Et le chef, il dit, ben et moi, qu'est-ce que je deviens? Et il a débarqué au Japon aussi. Vous voyez, j'ai pris cette photo parce que je trouvais ça... Le pigeon arrivait toujours, et il allait toujours se reposer sur une rambarde où il se mettait à s'ébrouer, puis il dormait. De décharge notre charbon à Shiba, je ne sais même plus où c'est, je ne me rappelle plus, et Mitsushima. Alors, on a été reprendre du charbon à vide. Alors, on est parti à vide du Japon en Australie, à Newcastle. Et là, on a chargé donc, encore pareil, 180 000 tonnes de charbon pour Donge. Alors, vous voyez, la profondeur de cale, elle fait 25 mètres. Et durant le chargement, pour pas que le bateau se casse, la cale, le milieu, était remplie d'eau. Et ils chargeaient devant et derrière, et après, ils vidaient la cale et ils chargeaient voilà. Et puis, ben, arrivé à Donge, après 6 mois de bord et 30 années de navigation, voilà.
Merci, bon. Merci beaucoup. Ben,